Feu d'artifice de Claude Debussy. Alexis Thibault était au piano. Alexis, vous êtes notre invité aujourd'hui. On vient d'écouter un extrait de votre premier disque consacré à la musique pour piano de Debussy. Je précise que c'est un enregistrement public. Alors Alexis, avant Debussy, on parlait de toutes ces personnes qui peuvent aider une carrière, des agents ou en tout cas des gens qui veillent sur vous. Parmi toutes les manières de se démarquer de nos jours, il y a, et depuis très longtemps d'ailleurs, il y a les concours. En 2007, vous n'aviez que 17 ans, vous avez remporté le concours Rotary Bruegel. Est-ce que ça reste un passage obligé pour un musicien, Alexis, les concours?
Alors, à cette époque, j'avais eu le prix du public, effectivement, et donc c'était en finale, j'avais eu le troisième prix aussi. C'est évidemment très important. Il y a des musiciens qui disent il faut pas se mettre dans ce système des concours.
Vous positionnez comment par rapport à ça?
J'avoue que cette année, je vais essayer de faire des concours. Je vais me présenter à plusieurs concours entre février et mai pour avoir cette reconnaissance, pour aller me frotter aussi. Mais maintenant, il y a beaucoup de musiciens qui arrivent à faire la part des choses. On va au concours et puis on est là pour le public. Si on reçoit un prix, tant mieux.
Mais on n'est pas défait si on ne reçoit pas de prix.
Si on est le dernier, on dit à personne qu'on y a été. Et puis, c'est grave pour personne. C'est aussi une manière d'aider les musiciens. Donc, il ne faut pas, je pense, rejeter les concours de cette façon. Je pense qu'il y a beaucoup de concours qui sont nés pour aider les musiciens. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, j'imagine.
Alexis Thibault, on va parler d'un Polonais hyper connu, c'est Frédéric Chopin. Vous venez d'enregistrer il y a peu, et toujours en public, le deuxième concerto en fa mineur de Frédéric Chopin. Chopin qui a fait que deux concertos pour piano. Pourquoi ce choix de Chopin, Alexis? Pourquoi celui-là?
Alors c'est avec celui-là que j'ai décidé de me présenter à l'examen final à Saint-Pétersbourg. Je pense que j'ai des affinités avec Chopin, en tout cas j'adore sa musique et mon professeur me disait « on est chopinien ou on ne l'est pas, moi je sens que tu peux être chopiniste, chopinien, et donc vas-y avec ce concerto ». Donc c'est mon premier concerto, je pense qu'après le prochain ce sera les variations sur un thème de Paganini, de Rachmaninov. Le concerto de Chopin numéro 2 est en fait le premier concerto de Chopin, parce qu'il l'a écrit... Il a écrit avant le premier, il a été publié après. Et donc c'est une œuvre de jeunesse.
Alexis Thibault, avant qu'on ne l'écoute, certains pianistes disent que finalement Chopin, quoi qu'il ait fait, il a surtout fait de grandes partitions pour piano et que la partie orchestre est un petit peu anecdotique par rapport à la partie de piano.
Effectivement, très souvent dans le concerto, l'orchestre fait tapis musical pour le pianiste, c'est quand même le pianiste qui a
la vedette.
Qui a la vedette, on va dire. Il ne faut pas oublier que c'est quand même dans la tradition classique du concerto, les thèmes sont introduits par l'orchestre. Et donc, le premier et second thème. Et donc, il y a des grandes parties tutti, surtout dans le premier mouvement.
Alexis Thibault, vous venez de parler du premier mouvement, mais nous, on a choisi de faire entendre à nos auditeurs le deuxième mouvement de ce deuxième concerto en fa mineur de Frédéric Chopin. Vous êtes au piano, vous êtes accompagné par l'ensemble orchestral de Bruxelles, dirigé par Jacques Van Herentals, et je rappelle que c'est un enregistrement public.
Thank you.
un extrait du deuxième mouvement du deuxième concerto en fa mineur de Frédéric Chopin. C'est notre invité Alexis Thibault qui était au piano. Alexis, vous étiez accompagné par l'ensemble orchestral de Bruxelles, dirigé par Jacques Van Herenthals. Et je rappelle, puisqu'il n'y a pas d'applaudissements après le deuxième mouvement, que c'est un enregistrement public. C'est votre première expérience de concerto en public, Alexis Thibault ?
Oui, effectivement. C'était mon baptême, disons, du concerto. Et c'était une très belle expérience. J'étais très content de pouvoir le faire.
Quand on a travaillé pendant des mois, voire des années, une partition comme un concerto, et qu'on a souvent dû imaginer les réponses de l'orchestre, à la première répétition, il doit y avoir un aspect grisant ou déstabilisant quand cet orchestre qu'on a intériorisé est là pour du vrai.
Il y a un côté grisant quand même, ça c'est clair. Au départ, les premières répétitions, c'est plutôt déstabilisant parce que on connaît très bien le son de l'orchestre. Je connaissais très bien en fait toutes les réponses.
Quelles versions vous ont inspiré ou vous a inspiré de ce deuxième concerto?
Lesquelles m'ont inspiré, je ne sais pas. Lesquelles j'ai écoutées, ça je peux vous dire. Il y a eu Rubinstein. C'est un enregistrement qu'il a fait quand il était déjà très très âgé. C'est un enregistrement vidéo, on peut voir. Alors il y a Zimmermann. Il y avait Raphaël Blechacz, un Polonais, qui a gagné le concours Chopin il n'y a pas longtemps. Il y avait aussi Victor Kissin, et puis Alfred Cortot.
Donc ça fait un paquet de versions que vous avez entendues. Vous n'êtes pas cantonné et vous n'êtes pas fixé sur une version.
Non, ça il faut éviter à tout prix, il me semble, et j'essaie de pas rester dans une version. Mais à chaque fois, il y a des choses à tirer de l'une ou l'autre version. Puis il y avait Mariage à Pires aussi.
Alexis Thibault, vous parliez de l'aspect grisant, mais aussi de l'aspect déstabilisant la première fois qu'on est avec l'orchestre. Qu'est-ce qui est déstabilisant très concrètement ?
On n'est pas dans la salle, on est dans l'orchestre. Et donc on est à côté des premiers violons, on est très loin des contrebasses.
Ou de l'harmonie par exemple, d'un solo de flûte qu'on a entendu très bien sur un disque.
Oui, bien sûr. Et donc c'est pas du tout le même effet. On aimerait être dans la salle pour entendre le tout. Et en fait on est vraiment au milieu de l'orchestre. Et donc on entend parfois des choses qu'on n'entend pas quand on écoute chez soi.
Ça ferait partie du métier de concertiste de pouvoir reconstituer dans son esprit tout ce qu'on n'entend pas bien.
Bien sûr, pour ce qui est en tout cas de qu'on appelle la balance, l'équilibre sonore, il faut bien calculer, disons, et toujours jouer assez juste et savoir comment ça va sonner dans la salle. C'est pour ça qu'on doit toujours demander à quelqu'un avant le concert comment ça sonne, est-ce qu'on entend bien telle ou telle chose, est-ce que je dois jouer plus ou moins. Oui, ça fait partie du métier de concertiste que de prendre vraiment conscience de tout ce qui est autour de soi et de s'imaginer comment ça donne dans la salle.
Donc par exemple, la question du volume, donc sans un avis extérieur, c'est compliqué de savoir si on donne trop ou trop peu.
Oui, ça, et en musique de chambre surtout. Moi j'ai pas mal joué avec alto, ça c'est un instrument...
Violon alto, hein, je précise.
Violon
pas,
alto.
Pas une
oui.
Chanteuse de voix d'alto.
Voilà, c'est très délicat parce que le violon alto a un timbre assez sombre, un registre assez bas, et donc il ne faut pas couvrir. Et le violon, il va sortir déjà beaucoup plus facilement parce que les notes sont plus hautes. Et donc il faut toujours faire attention à la balance, jamais couvrir le partenaire. Et pour ça, parfois on a toujours l'impression que ça va, ou parfois on a l'impression de couvrir alors que ça passe très bien. Il faut un avis extérieur très souvent.
Ça tombe bien que vous parliez de sonates pour piano et violon alto, puisqu'on va en écouter une précisément maintenant. Alors c'est une œuvre de Rebecca Clark, une compositrice très méconnue. Vous nous en dites quelques mots, Alexis Thibault.
Alors effectivement, Rebecca Clark, elle est assez peu connue, et même des musiciens en général. Alors la sonate a été composée en 1919. Elle s'est présentée à un concours. Dans le même concours, il y avait Ernest Bloch. Ils ont tous les deux soumis leur sonate. Et puis, il y avait un problème d'ex-aequo. Je ne sais plus si on voulait attribuer le prix à Rebecca Clark parce que c'était une femme ou justement on ne voulait pas. Et puis finalement, on a changé peut-être avec Bloch. C'était une sonate écrite pour un concours. Ça fait quand même partie du répertoire bien connu des altistes.
Alexis, on va écouter le deuxième mouvement de cette sonate pour alto et piano de Rebecca Clark. C'est Julia Kornig qui est à l'alto, une altiste française qui étudiait avec vous à Saint-Pétersbourg. On écoute donc le deuxième mouvement de cette sonate pour alto et piano de Rebecca Clark. Le deuxième mouvement de la sonate pour violon, alto et piano de Rebecca Clark, une compositrice anglaise qui a vécu entre 1886 et 1979. Et cette œuvre qu'on vient d'entendre a été composée en 1919. Alexis Thibault, notre invité, était au piano et Julia Kornig était au violon alto. C'est toujours, comme tous les extraits qu'on entendra aujourd'hui, un enregistrement réalisé en public. Alexis Thibault, si vous n'aviez pas réussi une carrière de soliste comme celle que vous semblez être en train de réussir, est-ce que vous auriez vécu agréablement, facilement, le fait d'être quelqu'un de moins exposé, comme un chambriste, un accompagnateur dans une grande école ou un professeur ?
Alors, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression de démarrer vraiment au tout début. Et donc, j'essaye de pouvoir me produire en solo. Et c'est ce que me pousse à faire mon professeur. C'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Je pense que si on est bon soliste, on sera un bon chambriste. Je pense que le contraire n'est pas si évident. Évidemment, je vais travailler en musique de chambre. J'ai très envie de donner cours, je donne un peu cours. Je trouve ça très très intéressant et je suis content déjà d'avoir des élèves. J'espère que j'aurai encore des élèves intéressants qui ont envie de beaucoup progresser et d'apprendre sur eux-mêmes.
Alors je voudrais revenir un instant sur ce que vous venez de dire, à savoir qu'un bon concertiste peut facilement se glisser vers l'univers de la musique de chambre et que l'inverse ne serait pas aussi simple. Pourquoi un grand chambriste éprouverait davantage de difficultés à devenir concertiste ?
Je pense simplement qu'il faut se confronter au public d'une manière très claire et donc d'être soliste sur la scène, vraiment exposé, c'est là qu'on va vraiment se forger notre personnalité de musicien. On n'a pas la même responsabilité quand on joue une sonate et donc on laisse beaucoup plus passer, on partage la responsabilité avec quelqu'un d'autre. Simplement qu'en étant soliste, voilà, on apprend à travailler et à être très précis et très rigoureux. Quand on joue en musique de chambre, avec un ou plusieurs instruments, on doit faire des compromis. Il faut avoir un projet commun, et puis après on partage les responsabilités, on est ensemble sur scène, il y a les aléas du concert, et il me semble qu'on est beaucoup plus détendu par rapport à ça. Quand on est seul devant le public, parfois on a vraiment l'impression d'une responsabilité énorme de ce qu'on doit faire. C'est ça qui nous pousse à être très rigoureux et à faire un grand travail sur soi-même. Ça que je veux dire, c'est que ce travail qu'on fait pour pouvoir jouer seul sur scène nous pousse à être très bons pour après jouer avec d'autres musiciens. Je pense que les chambristes ont parfois l'habitude d'être un peu plus cachés ou de ne pas être vraiment sur l'avant de la scène. Et ce qui les empêche parfois d'être de très bons solistes.
Alexis Thibault, pour clore ce sujet des pianistes de musique de chambre, parmi les pianistes chambristes que vous admirez, quelles sont les qualités pour vous d'un grand chambriste ?
Alors le chambriste, il doit pouvoir apprécier le musicien avec qui il joue. Le chambriste doit rester lui-même tout en partageant la musique avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut surtout aimer partager. Pour ce qui est de l'aspect technique des choses, évidemment, il faut être très à l'écoute. Il faut bien connaître sa partie. Il faut pouvoir s'adapter du point de vue de l'équilibre sonore, du point de vue des idées musicales. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en même temps qu'un autre. Il faut savoir aussi dialoguer.
Alexis Thibault, on va terminer cet entretien sans transition, comme on dit à la télé, avec un choix musical non classique que je vous ai demandé. Et vous avez choisi Genesis, un groupe phare des années 70. C'est une époque qui vous plaît beaucoup dans le rock, progressif ici.
Effectivement, j'aime beaucoup Pink Floyd et Genesis. Je pense que Genesis a été le groupe qui était le plus loin dans la diversité. En fait, chaque morceau chez Genesis a une trame dramatique. Et donc, c'est construit parfois comme la musique classique. Il y a évidemment un thème de chanson, mais ça raconte à chaque fois des histoires. Il y a des moments absolument épiques et puis des solos complètement fous. Il y a aussi beaucoup d'humour et puis il y a, en particulier chez Genesis, cet aspect un peu britannique et puis quelques aspects folkloriques ou plutôt des histoires britanniques.
On va écouter Dancing with Moonlit Night et cet extrait d'un album qui s'appelle Sailing England by the Pound. Le groupe Genesis, c'est un choix de notre invité, le pianiste Alexis Thibault.
Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes.
It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear, wear, wear. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves his thumbs right off.
Genesis, on écoutait Dancing with Moonlit Nights. C'est un choix de notre invité Alexis Thibault. Pour les spécialistes de Genesis, on peut leur dire que cet extrait de Selling England by the Pound, c'est un choix de notre invité Alexis Thibault. Vous nous avez expliqué les liens qu'on peut même faire avec la musique classique, tellement on passe par des tas de climats, un peu comme dans les différents mouvements d'un concerto.
Oui, je trouve chez Genesis en particulier, ils ont été très loin dans la structure, vraiment dans la composition des morceaux. Et ce qui est dommage avec tout ce qui est la musique rock et souvent populaire, c'est qu'on a absolument perdu cette composante dramatique. Maintenant, on assure un refrain qu'on répète beaucoup et puis parfois un couplet. Et donc, on reste dans cette structure ABABA pour les analystes. Maintenant, on ne sait plus faire la musique qui raconte des choses. Et ça, c'est encore la musique qui raconte des choses. Et il y a encore à cette époque-là, le rock progressif, il y avait les albums conceptuels. Et donc, il y avait ça chez Pink Floyd, Genesis, parfois d'autres.
Alexis Thibault, pour clore cet entretien, je voudrais vous demander quels sont vos projets musicaux du moment et des mois et années à venir.
Alors là, j'ai très envie de, évidemment, de continuer à jouer beaucoup de solos. C'est pourquoi je vais constituer un récital pour le jouer dans des concours et bien sûr à l'occasion de quelques concerts. Alors dans ce récital, il y aura Les Miroirs de Ravel et la sonate en si mineur de Chopin. Je vais aussi faire de la musique de chambre. Pour l'instant, je ne m'avance pas encore sur tout ce que je vais jouer. En tout cas, il y a de beaux projets en perspective. On va organiser de beaux concerts, en tout cas.
Alexis Thibault, merci beaucoup de nous avoir ouvert votre univers musical.
Merci à vous.
Je vous rappelle que si vous voulez réécouter cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le podcast pendant une semaine ou alors la radio à la demande, c'est-à-dire le streaming pendant un mois sur notre site www.musique3.be. Vous pouvez également nous réécouter tout à l'heure, ce sera à 23h. Toutes les infos des œuvres que vous avez pu entendre au cours de cette émission sont disponibles sur ce même site www.musique3.be. Puisque vous avez du talent, une émission réalisée et présentée par Laurent Grolus.
Puisque vous avez du talent, revient dimanche prochain. Dans un instant, la météo, puis les infos de 13h.
À la semaine prochaine.